Bonjour à tous. En cette belle journée, je dois dire que le printemps a fait son apparition sur le campus. Un très, très beau printemps. Les arbres bourgeonnent, les fleurs sont là. C'est une période très spéciale de l'année. Mais pendant que nous y pensons, tout le monde, la Pâque et les jours de pain sans levain sont probablement encore frais dans nos esprits. Les vacances de printemps sont dans nos esprits, et nous avançons vers la Pentecôte. C'est donc une période très spéciale et très importante qui s'annonce, alors que nous avançons vers la Pentecôte. Mais, frères, suffisamment de temps s'est écoulé, et peut-être avez-vous commencé à penser à ces luttes que vous avez identifiées pendant les jours de pain sans levain de la Pâque, aux choses auxquelles vous avez réfléchi, aux choses sur lesquelles vous avez travaillé, et suffisamment de temps s'est écoulé pour que certaines de ces choses sur lesquelles vous avez travaillé aient refait surface. Vous commencez donc à réfléchir. Je vais vous donner quelques exemples de choses qui ont déjà pu se produire. Cela a pu se produire dans votre vie ou dans celle de quelqu'un qui entend ce message. Ce sont des exemples que je vais utiliser. Mais il est dit que vous avez peut-être ressenti une soudaine poussée de colère. Pensez que vous avez peut-être voyagé sur les routes. Il y a assez de temps pour que vous vous rendiez au travail, peut-être en classe, et que quelqu'un vous coupe soudain la route, et vous ressentez une poussée de colère. Vous avez commencé à penser à quelque chose ou à dire quelque chose dans votre esprit, ou peut-être même à haute voix, et soudain vous le regrettez. Mais il s'est passé quelque chose juste avant que vous ne ressentiez cette poussée de colère. Et si on prenait un autre exemple, vous vous êtes promis de ne plus jamais recommencer. Repensez aux choses que vous avez travaillées pendant les jours de pain sans levain et que vous vouliez surmonter. Mais après une longue journée de travail, vous êtes seul, vous êtes fatigué, et alors vous tendez la main et vous faites cette chose. Cette seule chose que vous pouvez remplir ou mettre en blanc comme vous le souhaitez. Mais quelques instants auparavant, il s'est passé quelque chose. Juste avant que vous ne fassiez cette chose ou que vous ne regardiez cette chose à laquelle vous ne vouliez plus participer, quelque chose s'est passé juste un instant avant cela. Un autre exemple pourrait être que quelqu'un vous a fait du mal, a blessé vos sentiments. Vous vous êtes dit que vous lui aviez pardonné, mais lorsque vous l'avez vu, une vague de colère ou d'amertume a surgi dans votre esprit et vous avez repensé à cette offense. Et vous vous êtes dit, j'ai pardonné à cette personne. Encore une fois, que s'est-il passé juste avant que vous ne voyiez cette personne, juste avant que vous ne pensiez à ce moment où vos sentiments ont été blessés dans le passé? Voici un autre exemple. La vie de tout le monde semble aller bien. Leur famille, leur carrière, leur vie, et vous commencez à en vouloir à votre propre vie. Vous vous sentez mécontent, ou peut-être que si vous regardez la vie d'une autre personne, vous sentez même que vous l'enviez. Frères et sœurs, qu'est-ce qui s'est passé, peut-être pas juste quelques instants avant, mais peut-être le temps qui a conduit à ce point, pour que vous sentiez que quelque chose s'est produit à nouveau quelques instants avant, ou peut-être longtemps avant cela? Dans tous ces exemples, il s'est passé quelque chose avant ce moment où vous avez eu l'impression d'avoir dérapé ou même péché. Vous pouvez ajouter d'autres exemples. Je viens de vous en donner de cet après-midi. Mais pour savoir quelle est cette chose qui s'est produite juste avant, mes frères, tournons-nous vers le chapitre 10 de la première épître aux Corinthiens. Nous en avons tous fait l'expérience probablement plusieurs fois avant aujourd'hui, avant que ce message ne commence, et certainement pendant la période qui nous a conduits là où nous sommes après les jours des pains sans levain et de la Pâque. Vous êtes au chapitre 10 de la première épître aux Corinthiens. Je vais reprendre au verset 13. Nous voulons nous concentrer sur le verset 13. Mais je commencerai par lire le verset 12, puis le verset 13. C'est pourquoi, que celui qui se croit debout prenne garde de ne pas tomber. Vous avez peut-être eu l'impression, lorsque j'ai passé en revue ces exemples et que vous avez pensé à d'autres exemples, que j'aurais pu tomber, que j'aurais pu glisser. Mais ici, il est dit, chacun, vous n'avez été soumis qu'à une tentation semblable à celle qui est commune à l'homme. Mais Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais il donnera à la tentation le moyen d'y échapper, afin que vous puissiez la supporter. De quoi parlons-nous aujourd'hui? Que s'est-il passé peut-être quelques instants avant cette colère, ou le moment où vous avez eu l'impression de déraper, où l'envie s'est glissée, où le non-pardon, où l'amertume? Il s'agit là d'une tentation pour tout le monde. Une tentation s'est produite ou a eu lieu, peut-être avant tout juste quelques instants avant cela. C'est une chose à laquelle nous devons réfléchir aujourd'hui. Et il y a trois choses ici dans ce verset du chapitre 13 que nous allons souligner aujourd'hui et qui nous aideront tous. Notre objectif cet après-midi est simplement de comprendre la tentation, pourquoi elle se produit et comment nous pouvons la surmonter. J'espère que cela vous aidera tous à comprendre un peu mieux la tentation. Beaucoup des frères qui nous accompagnent sont relativement nouveaux. Certains d'entre nous n'ont peut-être pas entendu ou lu quelque chose sur la tentation récemment, et ceci sera utile. Surtout en cette période de l'année, alors que nous nous éloignons un peu des jours des pains sans levain et que nous nous dirigeons vers la Pentecôte. Encore une fois, il s'agit d'une période très importante pour nous tous. Commençons donc par examiner la toute première chose, ici, dans ce verset, mes frères. Nous allons nous en tenir à ce verset, et vous pouvez garder un signet à cet endroit. Nous y reviendrons et nous y ferons référence à plusieurs reprises. Mais je tiens à souligner la toute première chose de ce verset. Et c'est là qu'il est dit, « Vous n'avez été soumis qu'à une tentation commune à tous les hommes. » Avez-vous déjà pensé à la tentation comme étant commune? Commune à l'homme? Qu'est-ce que cela signifie? Si nous pensons à la tentation et que nous voulons la comprendre, et que nous voulons savoir pourquoi nous la subissons, et que nous voulons la surmonter, comment cela peut-il nous aider à savoir que la tentation? Dieu veut que nous sachions qu'elle est commune. Ainsi, lorsque vous pensez à quelque chose de commun, vous pouvez dire qu'il s'agit de quelque chose qui est partagé par de nombreuses personnes. Il s'agit de quelque chose qui est possédé ou expérimenté par un grand nombre de personnes. Par exemple, les gens ont un intérêt commun pour la musique. Ce n'est qu'un exemple concret pour lequel on peut dire que c'est quelque chose qui se produit couramment, ou qui est commun. Mais quand on pense à la tentation et qu'on en parle, qu'est-ce que cela signifie? Et cela signifie simplement, frère, que c'est commun à l'homme. Il ne dit pas que c'est seulement commun aux chrétiens. Il dit que c'est commun à l'homme. Cela signifie tout le monde, chaque personne. Nous pouvons exclure les nourrissons et les enfants lorsqu'ils commencent à grandir et que la nature humaine commence à agir sur vous. Nous pouvons probablement les exclure pour l'instant. Mais à mesure que chaque personne grandit, en fin de compte, pas seulement vous et moi, tout le monde, mais chaque homme et chaque femme, pensez au jardin, a été confronté à un certain type de tentation dans sa vie. Une autre façon de penser que c'est commun serait de dire que c'est quelque chose de fréquent. Quelque chose qui arrive souvent ou qui se produit dans de nombreux endroits. Encore une fois, un exemple simple serait le matin ou l'après-midi, nous parlons de l'heure de pointe. Il est courant de voir beaucoup de circulation aux heures de pointe. Si vous pensez à la grippe commune, il s'agit de quelque chose de courant. Elle survient régulièrement. Vous et moi avons, pendant la saison de la grippe, lorsque les saisons changent, nous sommes susceptibles de contracter la grippe. Cela signifie que beaucoup de gens attrapent la grippe, mais aussi que vous pouvez l'attraper, en ressentir les symptômes ou les éprouver fréquemment. Alors, comment appliquer cela à la tentation? Frères et sœurs, Dieu égalise presque le terrain de jeu en nous disant que la tentation est commune à l'homme, mais il enlève aussi le mystère au fait que nous pouvons savoir qu'elle est commune dans nos vies. Elle est fréquente. Comme je l'ai mentionné, peut-être même avant que vous n'entriez dans cette pièce aujourd'hui, vous pourriez être tenté d'une manière ou d'une autre. Que se passe-t-il lorsque vous et moi sommes tentés? Allons à Jacques. Jacques, chapitre 1. Dieu veut que nous comprenions la tentation, mes frères. Il y a parfois un mystère, et c'est certainement le cas pour les nouveaux venus. Quel est l'avis de Dieu sur la tentation? Et nous voulons le rendre compréhensible dans ce message aujourd'hui, afin que nous puissions comprendre de quoi il s'agit. Que se passe-t-il lorsque nous sommes tentés? Vous êtes au chapitre 1 de Jacques. Je lis ici à partir du verset 14, du verset 12, jusqu'au verset 18, qui aborde le sujet de la tentation. Mais je voudrais m'attarder plus particulièrement sur le verset 14. Attardez-vous un peu sur le verset 14. Mais tout homme est tenté. Encore une fois, je reviens à cela, c'est courant. Tout homme est tenté, lorsqu'il est entraîné par sa propre convoitise et séduit. Il y a donc quelque chose en vous et moi, notre nature humaine, qui nous permet d'être tentés. Ainsi, une définition de la tentation serait simplement un test ou quelque chose qui vous incite à pécher. Qu'est-ce que cela signifie d'être attiré? Ou ici, il est dit, il est attiré. Attiré par quoi? Certains d'entre nous sont de bons pêcheurs, ou vous avez probablement vu des émissions sur la pêche. Mais lorsque vous attirez un poisson ou que vous essayez de l'éloigner, chaque poisson a son propre appât que vous devez utiliser pour l'attirer. Cette chose qui les attire, c'est leur que vous utilisez, les pêcheurs l'utilisent pour les attirer. Et c'est ce que cela signifie, éloigner ou attirer de cet endroit secret. Si vous pensez à la chigan à grande bouche, vous utiliserez un type de leurre différent de celui du poisson lune. Parfois, il suffit d'enfoncer son doigt dans l'eau pour que le poisson lune vienne mordre le doigt. Ils sont attirés hors de leur lieu de sécurité ou de protection pour venir y être attirés, attirés hors d'une position sûre. Quelles sont ces choses qui peuvent nous attirer, vous et moi? Il est dit que tout homme est tenté lorsqu'il est entraîné, lorsqu'il se laisse entraîner, ces choses qui sont en nous peuvent nous permettre d'être entraînés. Nous avons besoin de connaître ces choses, et je suis sûr que nous examinons ces choses pendant les jours des pains sans levain. Et beaucoup de ces choses nous aideront, ce message nous aidera à nous souvenir ou peut-être à apprendre de nouvelles choses en cours de route. Mais quelles sont ces choses qui peuvent potentiellement vous attirer, frère, vers le péché? Cela ne veut pas dire que c'est le péché, mais cela veut dire vous attirer loin de lui. Le danger de la tentation, pour nous tous, c'est qu'il y a un élément de tromperie. S'il n'y en avait pas, si un pêcheur n'avait pas besoin d'utiliser un leurre pour attirer un poisson, celui-ci ne mordrait pas. Certains poissons ne réagissent tout simplement pas à un certain type de leurre. Il faut un leurre spécifique pour un poisson spécifique. S'il n'y avait pas de tromperie, quelle serait la tentation pour nous? Et le mot, si vous revenez au 1er Corinthiens, si vous aviez votre doigt là, tout le monde, sur lequel je veux me concentrer ici, au verset 13, il est dit, aucune tentation ne vous a pris. Pris signifie prendre par ruse ou par tromperie, prendre possession ou s'emparer de vous. Le but de la tentation est donc de vous attirer loin d'un endroit sûr et de vous saisir, de s'emparer de vous, de votre esprit et de vos actions. Revenons à Jacques. Jacques 1. Je veux reprendre à partir du verset 15. Nous pouvons relire le verset 14, puis passer au verset 15. Mais tout homme est tenté lorsqu'il est entraîné par sa propre convoitise et séduit. Or, lorsque la convoitise a conçu, elle enfante le péché. Frères et sœurs, nous devons clarifier une chose, lorsque nous sommes tentés, oui, il y a ce niveau de tromperie qui nous attire, mais la tentation n'est pas encore un péché. Il y a un délai ou une distance entre vous, nous pourrions dire entre vous et le péché. La tentation consiste à vous inciter à pécher, mais cela ne signifie pas que vous avez déjà péché. Il y a donc un temps pour réagir, un temps pour comprendre ce qu'est la tentation, pourquoi nous la subissons, et ensuite pour la surmonter lorsque nous y sommes confrontés. Et c'est sur cela que nous voulons nous concentrer aujourd'hui, sur le fait que nous ne sommes pas obligés de pécher. Lorsque vous êtes tenté, cela ne signifie pas que vous allez automatiquement pécher. Et c'est une autre chose, frères et sœurs, que parfois nous nous sentons coupables simplement parce que nous sommes tentés. Pourquoi suis-je tenté? Pourquoi dois-je faire face à cette tentation? Je pensais avoir surmonté cette chose et voilà que j'y suis confronté à nouveau, et encore, et encore. Comme nous l'avons dit, c'est un phénomène courant. Cela arrive fréquemment. Cela peut arriver régulièrement. Et nous allons voir pourquoi nous passons par là, frères. Et cela vous encouragera finalement lorsque vous commencerez à comprendre pourquoi nous passons par là. Dieu a un but pour cela. Mais pendant que nous sommes tentés, il est important pour nous de connaître la source de la tentation. Ici, dans Jacques, nous avons déjà examiné notre chair. Si vous écrivez Galates 5, le verset 17, vous verrez qu'il parle de certaines attitudes ou de certains penchants de la chair, de mauvais modèles dans nos vies, de mauvaises habitudes. Ce sont des choses, notre propre chair, le monde, la société, c'est l'une des choses qui peuvent nous tenter. Mais il y en a une autre, frères et sœurs, alors que nous nous tournons, s'il vous plaît, vers Pierre, c'est une chose sur laquelle nous devrions être vigilants lorsque nous sommes tentés, pour savoir qui est impliqué, qui utilise cette tromperie. Soit nos propres forces charnelles, notre propre nature humaine. Mais ici, au verset 5 de la première Pierre, ou au chapitre 5, excusez-moi, au verset 8, il est dit, soyez sobres, soyez vigilants. Nous ne voulons pas entrer dans une tentation et la prendre à la légère. Nous voulons être sobres et vigilants. Car votre adversaire, notre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, se promène. Il utilise ses appâts. Il essaie de pêcher, pour ainsi dire, cherchant qui il pourra dévorer. Ce n'est donc pas un simple pêcheur, c'est un lion qui veut nous dévorer. C'est une grande source, le diable, mes frères. Pensez-y lorsque vous êtes tentés. Ne vous contentez pas de marcher vers une tentation ou de la voir sans réfléchir et sans réaliser que le diable est très probablement présent, impliqué dans cette situation, et cela devrait vous rendre plus sobre. Cela devrait vous dégriser, mais aussi nous rendre vigilants et savoir que nous devons faire ce qui suit lorsque nous sommes tentés. Frères et sœurs, le fait de savoir que la tentation est courante nous aide à comprendre pourquoi nous sommes tentés et à la surmonter. Cela nous amène au deuxième point de cet après-midi, c'est-à-dire à la deuxième pierre. Vous êtes dans la première pierre. Nous reviendrons bientôt aux Corinthiens, mais deuxième pierre, chapitre 2. Deuxième pierre, chapitre 2, et je reprends ici au verset 9. Nous allons regarder, maintenant que nous comprenons que c'est commun, il y a la deuxième partie ici dans les Corinthiens, ce verset que nous lisons. Mais regardons d'abord le deuxième pierre, au verset 9, qui dit, le Seigneur. Il est dit, le Seigneur. Frères et sœurs, Dieu sait comment délivrer les pieds de la tentation. vous et moi qui nous efforçons de vivre une vie pieuse. Ceux d'entre nous qui obéissent à Dieu s'efforcent de vivre selon son mode de vie. Il s'est délivré les pieds de la tentation. Ceux qui sont dans le monde passent par là. Ils sont tentés. Ils ne savent peut-être même pas qu'ils sont tentés. Cela les conduit au péché et aux conséquences du péché sans le savoir, et pas avec, ils ne sont pas délivrés. Dieu dit qu'il sait qu'il peut vous délivrer. Il sait qu'il peut nous délivrer, vous et moi. Et il continue en disant, de la tentation, et de réserver les injustes pour le jour du jugement, afin qu'ils soient punis. Ce qui signifie que le péché conçu ou la tentation conçue dans le péché, et le péché conduit finalement à la mort. Mais pour nous, frères et sœurs, si vous revenez à 1 Corinthiens 10, verset 13, il est important que nous comprenions ce qui suit, au milieu de ce verset. Nous avons parlé du fait que c'est commun à l'homme, et il est dit ici, juste ici au milieu, si vous regardez au milieu, mais Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Nous voulons nous concentrer ici, juste pour un moment, sur le fait que Dieu est fidèle. Frères et sœurs, vous et moi, le fait est que vous et moi pouvons compter sur Dieu chaque fois que nous traversons une tentation. Nous pouvons compter sur lui. Il est là pour nous délivrer. Il sait comment le faire. Nous allons voir comment le faire, mais vous pouvez compter sur lui. Il ne faut pas compter sur soi-même quand on est tenté. Rappelez-vous, il y a ce niveau de déception, vous pourriez entrer dans la tentation et ne pas réaliser que vous êtes tenté, mais quelque chose que vous et moi devons savoir à l'avance, c'est que Dieu dit, « Je suis fidèle ». Passons aux Hébreux. Gardez votre doigt sur Corinthiens. Allez au chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux. Dieu est fidèle. Comment peut-il être fidèle, mes frères? Comment sait-il nous délivrer, vous et moi, de la tentation? Comment le fait-il? Comment le sait-il? Hébreux, chapitre 4 et verset 15. Un verset ici. Vous l'avez probablement lu plusieurs fois pendant les jours des pains sans levain, et nous avons eu des messages sur ce verset, mais je veux m'y attarder un instant à nouveau. Car nous n'avons pas de souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. C'est-à-dire ce sentiment de nos infirmités, quelqu'un qui a de la compassion pour ce que vous vivez, les faiblesses que vous avez, les défauts, les tiraillements de la chair. Christ sait, Dieu sait, mes frères, ce que c'est, mais il a été tenté en tout point comme nous, sans toutefois commettre de péché. Voilà, c'est encore le point central, cette tentation, mes frères, je le répète, la tentation n'est pas le péché. Christ a été tenté en tous points, mais il n'a pas péché. Lorsque vous réfléchissez à tous les points, vous avez peut-être une liste, et vous pouvez écrire une liste des tentations que vous subissez, et disons que nous prendrions tous les papiers que vous avez. Nous n'allons pas le faire en réalité, mais disons que vous savez quelles sont les choses qui vous tentent, et peut-être que l'un d'entre nous a 5 points sur sa liste. Un autre a 6 points, un autre 3. Si nous compilons toutes nos listes ensemble et que nous mettons tous les excluons tous les points communs et que nous les comptons de 1 à un certain nombre, nous pouvons dire que Christ a été tenté sur tous les points, pas seulement sur vos points individuels, mais sur tous les points par lesquels nous passons tous, sans péché. Cela signifie, frère, qu'il sait ce qu'il faut faire en cas de tentation. Vous pouvez compter sur lui que la tentation que vous traversez n'est pas quelque chose de nouveau pour lui. Elle était même courante pour Christ. Revenons à un chapitre, 2 chapitres plus tôt. Nous étions au chapitre 4, allons au chapitre 2 et lisons le verset 18. Encore une fois, comment se fait-il que Dieu puisse vous délivrer, frère? Parce que vous voulez compter sur lui. Comment pouvez-vous savoir que vous pouvez compter sur lui? Le verset 18 du chapitre 2 de l'Épître aux Hébreux dit, car il a souffert lui-même d'être tenté. Parfois, vous et moi avons l'impression de souffrir lors d'une tentation. Cela nous tire vers le bas lorsque nous sommes tentés. Pourquoi suis-je à nouveau tenté? Ici, il est dit que Christ a souffert de la tentation. Mais il est dit aussi qu'il est capable de protéger ceux qui sont tentés, un mot sophistiqué, protéger, qui signifie en fait simplement aider ou assister. Parce qu'il savait comment nous délivrer, il a fait confiance. Christ s'est confié au Père. Il savait qu'il pouvait compter sur le Père pendant toutes les tentations qu'il traversait. Frères et sœurs, vous et moi pouvons et devons compter sur Dieu. Nous devons savoir qu'il est fidèle. Il peut vous aider. Il veut vous aider. Vous avez besoin d'aide. Frères et sœurs, la fidélité de Dieu n'est pas théorique. Souvent, on peut y penser et se dire, vais-je recevoir de l'aide? Le simple fait que la tentation soit commune et qu'elle se produise régulièrement, nous devons savoir que nous avons besoin d'une aide régulière. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprenne ce que nous vivons à ce moment-là et de quelqu'un qui soit capable de nous délivrer, et Dieu est cette personne. Christ a traversé tout cela pour pouvoir nous aider. Dans cette cocotte minute de la tentation, pour passer au crible la tromperie, pour ne pas la laisser conduire au péché, nous avons besoin de quelqu'un qui la comprenne, et ce n'est pas de la théorie. Ce qu'il dit dans les Corinthiens, vous et moi pouvons l'appliquer, et chaque fois que nous traversons une tentation, Dieu veut que nous nous en souvenions, que vous pouvez me faire confiance. Comptez sur moi. Lorsque vous vous sentez tenté, frère, le verset ne vous dit pas. Corinthiens chapitre 10 verset 13 ne vous dit pas de compter sur vos propres forces. Il renvoie au caractère de Dieu. Le fait qu'il est fidèle. Ce n'est pas vous qui dites, je peux le faire grâce à mes propres forces. Je suis fort. J'ai grandi en tant que chrétien. Oui, vous avez peut-être grandi en tant que chrétien, mais chaque fois que nous sommes tentés, nous devons avoir cette pensée dans notre esprit qui dit, je ne suis pas fort. Vous pouvez y faire face parce que Dieu est fidèle. Vous serez capable de ne pas pécher à cause de la fidélité de Dieu, et non à cause de votre propre force. Encore une fois, nous sommes confrontés à un ennemi, Satan, qui est comme un lion ou un pécheur qui veut vous séduire, qui veut utiliser la tromperie. Pensez à la facilité avec laquelle il a pu tromper Adam et Ève, et il est très doué pour cela. Et le simple fait que vous et moi sachions, et que nous ayons besoin du pardon des péchés, nous savons et comprenons aussi qu'il est si facile de laisser la tentation s'envenimer, grandir, concevoir et devenir un péché. Il ne s'agit pas, mes frères, de nous culpabiliser. Il s'agit en fait de nous aider aujourd'hui à comprendre la tentation afin que nous puissions créer une distance et que nous ne permettions pas au péché ou à la tentation de devenir un péché. C'est une promesse que Dieu nous fait, vous pouvez compter sur moi. Revenons un instant à Jacques. Pensons à nouveau aux sources de la tentation que nous avons abordées, mais ici, dans Jacques 1, verset 13. J'ai commencé plutôt au verset 14. Le verset 13 dit, que personne ne dise, quand il est tenté, je suis tenté par Dieu. C'est une autre promesse, mes frères, que Dieu nous donne. Il continue, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente aucun homme. La tentation est donc courante, mais aucune de ces tentations ne vient de Dieu. Il l'a permis. Pensez à la vie de Job. Dieu a permis la tentation dans sa vie, et il permet la tentation dans nos vies, mais elle ne vient pas de lui. Encore une fois, nous pouvons lui faire confiance. Nous pouvons compter sur lui pour savoir, lorsque vous êtes tenté, frère, vous devez comprendre ce qui se passe. Vous devez voir les choses clairement. Et l'un des points est de savoir que ce n'est pas de Dieu. Il veut que vous surmontiez la tentation. Il veut que vous résistiez à la tentation, mais vous pouvez le savoir et je peux le savoir, ce ne sera jamais lui qui vous tentera. C'est une connaissance utile à avoir dans notre esprit. Pourquoi sommes-nous? Nous avons dit, frère, nous voulons savoir pourquoi nous sommes tentés. Allons-y. Pourquoi passons-nous régulièrement par la tentation? Il doit y avoir un bénéfice. Il doit y avoir une raison à cela. Allons au premier Pierre. Pourquoi Dieu le permet-il? Pourquoi est-ce courant? Pourquoi n'est-ce pas seulement une fois par an, peut-être juste un an avant la Pâque ou avant la fête des tabernacles? Nous avons parlé des tests et des épreuves auxquelles nous sommes confrontés. Pourquoi n'est-ce pas seulement deux ou trois fois par an? Pourquoi Dieu permet-il que ce soit courant? 1 Pierre, chapitre 1, et nous reprenons au verset 6. Il est dit, « C'est pourquoi vous vous réjouissez beaucoup, même si ce n'est que pour un temps, s'il le faut. » Frères et sœurs, il y a un besoin pour vous et moi. Cela signifie qu'il y a un besoin, une nécessité pour nous de passer par, comme Pierre le dit ici, vous êtes dans le malheur à cause de multiples tentations. Multiples signifie simplement nombreuses tentations. Il y a un besoin, une nécessité pour vous et moi de passer par là. Que l'épreuve de votre foi. Au verset 7, l'épreuve de votre foi. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous y allons. Nous avons dit que la tentation est une épreuve. Ici, il est dit qu'il met notre foi à l'épreuve. Notre fidélité, mes frères, est mise à l'épreuve lors d'une tentation. Nous savons que Dieu est fidèle, mais il veut voir notre fidélité. Il veut voir notre foi, et il veut voir que nous savons aussi où se situe notre niveau de foi. Il peut être élevé ou faible. Je peux grandir dans ce domaine, mais c'est votre foi qui est testée. Votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or périssable, même si elle est éprouvée par le feu, sera trouvée pour être louée, honorée et glorifiée lors de l'apparition de Jésus-Christ. Le but final est que notre foi, mes frères, donne à Dieu gloire et honneur par le fait que nous avons compris, que nous avons su pourquoi nous avons traversé la tentation, et qu'en fin de compte, nous avons pu la surmonter. L'une des raisons pour lesquelles nous passons par la tentation est de tester notre foi. C'est nécessaire. Quelle est l'autre raison? Revenons à Jacques. Plusieurs raisons, mes frères. Ce n'est peut-être même pas une liste exhaustive que je vous donne pour les raisons pour lesquelles nous devons y faire face, mais pour vous aider à être encouragés pendant une tentation, à savoir que ce n'est pas inutile. Il y a un but à cela si nous vainquons. Lisons Jacques 1, verset 2. Il dit, « Mes frères, réjouissez-vous de tomber dans diverses tentations. » Là aussi, Jacques dit que les tentations sont courantes. Tout comme Paul et Pierre, il utilise le mot « diverses ». Mes frères, combien de fois, vous et moi, nous en réjouissons-nous? Lorsque nous sommes parfois tentés, nous avons l'impression d'être entraînés vers le bas. Je suis sûr que nous ne nous réjouissons pas à chaque fois, mais Dieu dit, réjouissez-vous. Vous traversez régulièrement la tentation, et lorsque vous la comprenez, que vous savez pourquoi vous la traversez et que vous savez que vous pouvez faire confiance à Dieu et compter sur lui, vous commencez à la considérer comme une joie. Il y en a une le matin. Il y en a une l'après-midi. Il y en a une hier et demain. Et chaque fois que vous traversez une tentation, vous la comptez 1, vous la comptez 2, vous la comptez 3. Et on a les mains pleines à chaque fois, et puis on commence à compter peut-être sur la pointe des pieds, Les nombreuses fois où l'on est tenté, mais on compte la joie quand on passe par de nombreuses tentations. Verset 3, sachant. On comprend la tentation. Vous savez pourquoi vous la subissez. Ce n'est pas un mystère pour vous et moi. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Elle fait naître un caractère divin. Elle nous rend, vous et moi, fidèles comme Dieu l'est, en forgeant notre caractère. Mais laissez les patients accomplir leur œuvre, afin que vous soyez parfaits et entiers, sans manquer de rien. C'est-à-dire que, ne manquant de rien, nous grandissons pour devenir des chrétiens mûrs. La tentation est nécessaire pour vous et moi, frères, pour devenir plus forts, pour mûrir en tant que chrétiens, pour devenir comme Dieu. Mais chaque fois que nous sommes tentés, nous pouvons savoir que notre niveau de maturité n'a pas d'importance. Si vous êtes un jeune chrétien, baptisé il y a 10 minutes, ou il y a une semaine, ou il y a un an, ou si vous êtes dans l'Église de Dieu depuis de nombreuses années, vous pouvez savoir que vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez compter à chaque fois. Mais l'une des raisons pour lesquelles nous passons par là, c'est pour nous aider à grandir spirituellement. Apprendre à dépendre de Dieu. C'est nécessaire à chaque fois. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous traversons cela, et nous le traversons souvent, mes frères, fréquemment, c'est pour apprendre à dépendre de Dieu. La troisième chose que nous voulons aborder aujourd'hui, c'est de revenir à la première épître aux Corinthiens. La troisième chose que 1 Corinthiens 10 aborde est, ici à la fin du verset, après avoir dit, Dieu est fidèle, afin que vous ne soyez pas tentés au-delà de vos forces, mais Dieu, il dit, tout le monde, fera avec la tentation, c'est une promesse, aussi un moyen d'y échapper, afin que vous puissiez la supporter. Maintenant, échapper et supporter, supporteur c'est endurer, nous pouvons le voir de deux manières différentes. Dieu veut que vous et moi fassions deux choses lorsque nous sommes confrontés à la tentation. Nous pensons maintenant à y échapper. Comment surmonter la tentation? Nous avons dit que nous voulions la comprendre, nous voulons savoir pourquoi nous la subissons, mais nous voulons aussi la surmonter. Comment la surmonter? L'une des choses que Dieu dit toujours pendant la tentation, c'est qu'il ne vous tentera pas au-delà de ce que vous pouvez faire. Vous pouvez vous échapper. Cela signifie créer une distance entre vous et la tentation. Il s'agit de quelque chose de plus à court terme. Vous pouvez être dans une situation, tout le monde, vous allez à l'épicerie et vous marchez dans une allée et peut-être quelque chose qui vous attire, disons que c'est l'alcool, ou les magazines dans le présentoir, ou les cigarettes dans l'allée des cigarettes, ou les vapes que les gens utilisent aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous attire, qui vous rapproche, qui peut vous tenter. Mais Dieu dit qu'il trouvera un moyen de s'échapper. Vous et moi devons donc créer une distance. Fuir la tentation. Nous devons parfois prendre des mesures radicales pour savoir quand nous sommes tentés, qui nous tente, mais nous ne voulons pas simplement entrer dans la tentation et nous laisser tenter. Rappelez-vous, frères, qu'une tentation veut vous saisir, vous attraper, pour finalement pécher. Nous voulons donc créer une distance entre la tentation et le péché, faire en sorte que nous puissions la supporter le plus possible, c'est-à-dire que nous puissions y échapper sans péché, tout comme Christ a pu le faire sans péché. C'est toujours possible. Il y a toujours un moyen. Dieu ne permettra jamais que vous soyez tenté et que vous deviez dire « Je dois pécher dans cette situation ». Il n'y avait pas de moyen de s'échapper. Dans d'autres situations, la deuxième chose qu'il veut que nous fassions lorsque nous sommes confrontés à la tentation, c'est de la supporter. Parfois, il n'est pas possible de créer une distance physique. Vous ne pouvez pas fuir la fornication, ou vous ne pouvez pas fuir la tentation qui se trouve juste devant vous. Que faire alors? Il peut s'agir d'une situation au travail. Il peut s'agir d'une situation à la maison où vous devez l'endurer. Il s'agit de faire face à cette tentation souvent, peut-être pendant une longue période. Que devons-nous faire alors? Que pouvons-nous faire pour créer une distance ou pour nous échapper? Comment faire? Jacques, chapitre 4 et verset 8, dit, nous pouvons reprendre du verset 7 au verset 8, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable dans cette situation, et il s'éloignera de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, doubles d'esprit. Si vous vous approchez de Dieu dans la prière, frères, quand vous êtes tentés, et si cela dure longtemps, et que vous ne pouvez pas y échapper tout de suite. Vous voulez prier pendant n'importe quel type de tentation, mais c'est une tentation à laquelle vous ne pouvez pas échapper immédiatement. Vous voulez vous rapprocher dans la prière, dans l'étude de la Bible, et parfois même le jeûne est nécessaire pour vous rapprocher de Dieu. Et si vous vous rapprochez de lui, vous créez automatiquement une distance entre vous et celui qui vous tente. Il est dit que Satan s'éloignera de vous. Parfois, il faut endurer cette tentation. Ce n'est pas quelque chose que l'on surmonte immédiatement. Il faut du temps, mais quand même, frères et sœurs, que vous vous échappiez dans un moment, à court terme, une situation à court terme comme à l'épicerie, ou une situation à nouveau dans votre famille, à la maison et au travail, vous savez ces choses, frères et sœurs, avec lesquels vous êtes tentés, que vous devez endurer. Mais Dieu promet qu'il y a un moyen d'en sortir. Je vais vous donner une liste. Juste des choses que nous avons déjà couvertes, d'autres choses que je veux souligner. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une liste exhaustive des choses que nous pouvons faire pour vaincre, pour échapper à la tentation et la supporter sans péché. La première chose à faire, c'est de reconnaître que la tentation est courante. Ce que nous avons dit enlève le mystère de la tentation. Tout le monde y passe. Et lorsque vous regardez à votre gauche et à votre droite, nous tous dans cette salle et dans toute l'Église à la manière de Dieu qui écoute et entend ce message, nous savons que nous sommes tentés. Appuyez-vous complètement sur Dieu lorsque vous êtes tentés. Sachez qu'il est quelqu'un sur qui vous pouvez compter à chaque fois. Grandissez tous dans l'autolimitation. Il y a une petite différence entre l'autocontrainte et le fait de grandir dans la tempérance. La tempérance est quelque chose qui se développe sur une longue période de temps, une caractéristique qui, si vous vous imposez des contraintes sur une longue période, vous commencez à grandir dans la tempérance. Mais vous pouvez penser à tout le monde, si nous allons au 1er Corinthiens, vous avez votre marque-page ici. Je vais vous lire 1er Corinthiens 7, et nous pouvons reprendre au verset 5. L'une des raisons pour lesquelles nous sommes tentés. Paul a dit, « Ne fraudez pas. Cela concerne davantage le mariage, mais il y a là un principe que nous pouvons appliquer, ne vous trompez pas l'un l'autre, acceptez de vous séparer pour un temps, afin de vous livrer au jeûne et à la prière et de vous retrouver ensemble, mari et femme, afin que Satan ne vous tente pas pour votre incontinence, c'est-à-dire votre manque de maîtrise de soi. Au moment où vous avez envie de dire quelque chose comme lorsque nous avons commencé ce message, et que vous savez que vous ne devriez pas dire cette chose, faites preuve de retenue. Ne dis pas et ne laisse pas sortir de ta bouche ce qui est dans ton cœur, que tu puisses te contraindre. Que vous ne répondiez pas par la colère, comme nous l'avons dit au début. Frères et sœurs, une autre chose est de savoir que vous ne serez jamais tentés par quelque chose que vous ne pouvez pas surmonter. Cela nous aide à savoir que lorsque nous sommes tentés, Dieu ne permettra pas que cela nous renverse, que nous tombions, mais nous devons être vigilants, c'est-à-dire sobres et vigilants. Il faut regarder autour de soi et se rendre compte de qui est impliqué. La gravité de la tentation, comme nous l'avons déjà dit dans 1 Pierre 5, verset 8, nous devons être sobres et vigilants. Connaissez votre environnement. Connaissez les personnes avec lesquelles vous êtes. Sachez où vous êtes. Que vous vous rendez compte que je dois peut-être rester à l'écart de cette situation parce que je serai plus facilement attiré et tenté. Créez une distance entre vous et la tentation. Parfois, vous devez prendre des mesures radicales, frère, et fuir la tentation. Remplacez la tentation. C'est un autre moyen que vous pouvez utiliser. Par exemple, si vous êtes dans une conversation et que vous êtes tenté de commencer à faire des commérages sur quelqu'un, remplacez la conversation, tournez la conversation vers un autre sujet, changez-la vers quelque chose de plus positif. Cela signifie que si vous êtes tenté et que vous savez que vous luttez contre les commérages, prenez une autre direction pour les remplacer. Frères et sœurs, une autre chose est de compter chaque fois sur la joie. Grandissez dans la joie. Ayez cette joie. Ne permettez pas qu'elle vous tire vers le bas. Si vous avez cette joie et que vous savez que vous pouvez compter sur Dieu, vous serez en mesure de surmonter avec succès la tentation chaque fois que vous y êtes. Occupez-vous l'esprit et les mains. C'est-à-dire que si vous êtes seul et que vous êtes facilement tenté par certaines choses, ayez-en un habit, lisez, faites de l'exercice, faites certaines choses, servez d'autres personnes. Occupez-vous les mains et l'esprit pour ne pas vous laisser tenter. Et puis, mes frères, gardez aussi à l'esprit les avantages. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons simplement parcouru un verset, 1 Corinthiens 10 verset 13. Nous avons appris que la tentation n'est pas rare, elle n'est pas unique, elle n'est pas imbattable. Elle est commune à l'homme, et vous et moi pouvons la surmonter. Ce qui est encourageant, c'est de savoir que le deuxième point que nous avons appris, c'est que Dieu est fidèle. Vous pouvez compter sur lui chaque fois que vous êtes tenté. Ne l'oubliez jamais. Ne laissez jamais la tentation, frère, vous faire craquer. Sachez que vous pouvez compter sur Dieu à chaque fois. Et lorsque la fuite n'est pas possible, il vous donnera la force de la supporter sans tomber, sachant que vous n'avez pas à pécher. Ainsi, la prochaine fois que vous sentirez monter la tentation, frère, que ce soit la colère, l'amertume, la convoitise, l'envie ou même le découragement, faites une pause et rappelez-vous qu'il ne s'agit pas de votre faiblesse. Il s'agit de la force de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de votre épreuve, mais de l'entraînement par lequel vous passez. Dieu est toujours proche. Vous pouvez toujours lui faire confiance. Il comprend ce que tu traverses. Il y a toujours un chemin, chacun, qui ne mène pas au péché, mais qui mène à la victoire spirituelle.